De la lettre de saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons dans l'amour saint et irréprochable sous son regard. Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ, selon ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, à la louange de sa gloire, de cette grâce dont il nous a comblés en son Fils bien-aimé, qui nous obtient par son sang la rédemption, le pardon de nos fautes. Elle est inépuisable, la grâce par laquelle Dieu nous a remplis de sagesse et d'intelligence, en nous dévoilant le mystère de sa volonté, de ce qu'il prévoyait dans le Christ pour le moment où les temps seraient accomplis dans sa bienveillance. Il projetait de saisir l'univers entier, ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre, en réunissant tout sous un seul chef, le Christ. En lui, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple, car lui, qui réalise tout ce qu'il a décidé, il a voulu que nous soyons ceux qui d'avance avaient espéré dans le Christ à la louange de sa gloire. Dans le Christ, vous aussi, vous avez écouté la parole de vérité, la bonne nouvelle de votre salut. En lui, devenus des croyants, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit que Dieu avait promis, c'est la première avance qu'il nous a fait sur l'héritage dont nous prendrons possession au jour de la délivrance finale, à la louange de sa gloire. À travers cet épître, ce début de l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1, Paul se remémore tout le plan du salut. Comment Dieu, qui nous a choisis depuis toute éternité, en son Fils Jésus-Christ, veut nous combler de ses bénédictions. Comment le Christ donne sa vie, nous pardonne ses péchés, et en lui, nous recevons l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint nous permet de goûter les prémices de l'héritage que nous posséderons le jour de la délivrance finale, où nous rentrerons dans la louange et dans la gloire de Dieu. Tout cela, c'est le plan du salut. Ce que nous appelons le plan du salut, c'est comment, une fois que l'homme est créé, et qu'hélas, il a fauté, Dieu va tout mettre en œuvre pour le rejoindre, lui parler, l'enseigner, l'orienter, s'unir à lui, lui pardonner, le sanctifier et le diviniser. Tout cela, c'est le plan du salut. Donc cet enseignement est introductif sur tout le reste. Il récapitule tout l'enseignement du credo. Il est un peu dense, mais il nous permet d'avoir un panoramique de toute l'histoire de salut, de tout notre Père, de tout le credo. Alors, peut-être trois mots qu'il est bon de retenir, c'est ce triptyque création, rédemption, sanctification. Création, rédemption, sanctification. C'est là-dessus que s'articule le plan du salut. Paul a dit, avec son style, cette invitation du Seigneur, l'Église va la reprendre dans son premier article du catéchisme de l'Église catholique, catéchisme numéro 1. Voilà ce que dit l'Église, Dieu infiniment parfait et bienheureux en lui-même, dans un dessein de pure bonté, a librement créé l'homme pour le faire participer à sa vie bienheureuse. C'est pourquoi de tout temps et en tout lieu, il se fait proche de l'homme, il l'appelle, l'aide à le chercher et à le connaître, et à l'aimer de toutes ses forces. Il convoque tous les hommes que le péché a dispersés dans l'unité de sa famille, l'Église. Pour ce faire, il a envoyé son Fils comme rédempteur et sauveur lorsque les temps furent accomplis. En lui et par lui, il appelle les hommes à devenir dans l'Esprit Saint ses enfants d'adoption, et donc les héritiers de sa vie bienheureuse. Pour le dire autrement, la Sainte Trinité veut se faire connaître. La Sainte Trinité veut que l'homme habite en elle, qu'elle connaisse sa gloire, qu'elle connaisse sa joie, sa lumière, et que la destinée humaine, ce n'est pas simplement de connaître la Trinité, mais c'est d'entrer la Trinité. Et donc l'histoire du salut, où Dieu va se révéler progressivement et appeler l'homme, l'enseigner, pour qu'il se tourne vers lui, ça part de la Trinité, ça rejoint l'homme et ça retourne à la Trinité. Voilà, il y a un chemin de sortie de Dieu et de retour à Dieu, nous verrons, qui résume tout le plan du salut. Alors nous parlions tout d'abord de la création. Il est bon de se rappeler que c'est la Trinité tout entière qui crée l'univers, qui a créé le cosmos, l'homme. Et la Trinité l'a créé dans la parole. Le pouvoir de Dieu, c'est que quand il parle, il crée. Nous, quand nous parlons, nous n'agissons pas forcément. Dieu, quand il parle, il crée. Et donc, l'univers entier est fondé sur la parole. On le voit au niveau scientifique, c'est encore plus vrai au niveau spirituel. Au niveau scientifique, les astrophysiciens, les généticiens s'accordent à dire effectivement qu'il y a du message, qu'il y a de l'ADN, qu'il y a de la pensée dans le cosmos, qu'il y a une organisation. Donc il y a une forme de parole qui montre un génie créateur, qui rappelle que Dieu crée de manière cohérente en pensant, parce qu'il est la pensée par excellence. Mais cette pensée ne se limite pas à créer, elle convoque, elle appelle, elle veut inviter à la vie divine. Elle veut que certains êtres spirituels s'unissent à elle de manière particulière. Cette parole, elle est parole de vie. Et donc Dieu, quand il crée, à un moment donné, il va créer l'homme. Et comme nous dit l'Écriture dans le livre de la Genèse, Dieu créa l'homme et la femme à l'image de Dieu, il les créa. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu crée l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance? L'homme a le pouvoir d'être un être libre, libre de décision, libre de réfléchir, libre de se donner. En cela, il est à l'image de Dieu, qui est souverainement libre de créer, souverainement libre de nous appeler à lui. Donc l'homme est libre. L'homme est un être relationnel. Nous le voyons dans la Genèse, homme et femme, il les créa. Et puis toute la communauté humaine, ou ne serait-ce que le lien que nous avons avec notre Créateur. En cela, l'être humain est relationnel, et il est à l'image de Dieu, qui est lui-même relationnel, parce que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, il est relation en lui-même depuis toujours et pour toujours. L'homme a des facultés, et on voit que ces relations sont aussi faites pour se donner. Le Père se donne au Fils, le Fils se donne au Père, et il se donne dans le Saint-Esprit, qui est la personne don par excellence, le don d'amour. Et bien l'homme aussi est fait pour se donner, dans le couple, dans une activité, dans un idéal, dans une vocation. Donc l'homme est libre et relationnel et capable de don à l'image de Dieu. Et il a des facultés que Dieu a mis dans son être qui sont d'abord des facultés divines que Dieu a de manière infinie, que l'homme a de manière réduite, mais qui font sa dignité. Quelles sont-elles de manière éminente? Elles sont la faculté d'aimer. Dieu aime. L'homme a la faculté d'aimer. Dieu pense, l'homme a la faculté d'intelligence. Dieu sait tout, se souvient de tout. L'homme a la faculté de mémoire. Certains pères de l'Église voient en ce triptyque l'amour, la volonté, donc l'intelligence et la mémoire, le triptyque lui-même de la Trinité, le Père, source de tout, mémoire de tout, le Fils, sagesse de tout, intelligence, l'esprit d'amour. La volonté. C'est inscrit dans l'homme, dans ce qu'il est. On est à l'image de Dieu. Mais cette volonté, cet amour, cette intelligence peuvent être utilisées librement pour le bien ou pour le mal. Et en cela, le livre de la Genèse nous raconte que l'homme, trompé par le serpent, va user de sa liberté pour le mal. Il va goûter au fruit de l'arbre de vie, c'est-à-dire qu'il va prendre possession de la vie en désobéissant à Dieu. Et en faisant cela, il se veut être la source de la vie, En faisant cela, il veut être créateur à la place du créateur. La créature veut devenir son propre créateur, sa propre fin. Et donc, au lieu de se recevoir de la Trinité et d'aller vers la Trinité, l'homme stoppe le processus et s'arrête à lui-même. Et ce drame-là continue à exister. Le pape Paul VI, dans son discours de clôture du Concile Vatican II, rappelait que, en discutant avec le monde contemporain qui était touché par l'agnosticisme et l'athéisme, disait « La religion du Dieu qui s'est fait homme a rencontré la religion de l'homme qui se fait Dieu, c'est-à-dire l'homme qui se suffit à lui-même. » Or, le fait que l'homme se suffise à lui-même a entraîné une conséquence depuis les origines dramatique envers son lien à Dieu, envers lui-même et envers son lien avec les autres. Que s'est-il passé ? Adam et Ève vivaient dans ce qu'appellent les théologiens la grâce adamique. Ne retenez pas ce mot, mais c'est-à-dire une grâce où les dons, il y avait, Dieu avait accordé à Adam et Ève une intimité dans le jardin d'Éden avec le Seigneur, une proximité. Et Adam et Ève avaient une communication avec le Très-Haut, beaucoup plus facile, beaucoup plus aisée. Ils étaient maîtres de leur passion. La domination sur eux n'existait pas. Et entre eux vivait une harmonie. Or, le fait de se couper de Dieu, ils sont laissés à leur finitude. Ils sont laissés à leur finitude. Leur capacité d'aimer, leur capacité intellectuelle, leur mémoire, leur relation, leur capacité de don va être abîmée. Elle est laissée à leur pure finitude. Ainsi, Adam et Ève vont connaître la mort. L'Église nous enseigne et l'Écriture nous enseigne que la mort est entrée par le péché du premier homme. Si Adam et Ève étaient bien finis physiquement, ils ne devaient pas connaître la mort. Dieu voulait que l'homme et la femme entrent dans la gloire sans passer par la mort. Non pas parce qu'ils étaient tout-puissants et éternels, mais parce que Dieu ne voulait pas la mort, parce qu'il les enveloppait de cette grâce adamique. C'est donc préternaturel dont parlent les théologiens. Or, l'homme laissé à sa finitude, se coupant de sa source, voulant devenir le créateur à la place du créateur, se retrouve fini, sans les dons qui le maintenaient dans l'amitié divine. Et que se passe-t-il ? Tout d'abord, l'homme a peur. Il perd le sens de Dieu. Il perd le sens de Dieu. Quand Dieu vient le rejoindre dans le jardin, l'homme se cache et il dira « Nous avons peur ». Donc, ils ont une fausse image de Dieu. Et cette peur de Dieu, comment elle est, comment elle dure dans l'être humain. Combien d'entre nous ont peur que Dieu est un juge ? Que Dieu fait ça, alors pourquoi il permet ça ? Tout cela, c'est des fausses images de Dieu. Ça dure. L'homme a perdu la simplicité avec Dieu, il se fait des projections. Et ça va continuer de siècle en siècle, puisque le polythéisme va arriver. Et puis finalement même l'athéisme. Donc le sens de Dieu est abîmé, voire disparaît, dû à cette peur, qui entendra une forme d'ignorance. Mais ce n'est pas suffisant. Cette perte de la vie divine qu'avaient Adam et Ève, laissée à leur propre finitude, a un impact sur leur être eux-mêmes. Un homme normalement ordonné, selon la grâce, ce sont les facultés les plus élevées qui dominent les facultés les moins élevées, c'est-à-dire le spirituel sur l'intellectuel et l'intellectuel sur le physique, le passionnel. Or, dans l'homme, va se provoquer une disharmonie. Ainsi, ce sont les passions qui dominent sur la raison. Et la vie spirituelle est plus du tout rationnelle. Elle part, entre guillemets, en live. Ainsi, entre Adam et Ève, Dieu dira, il y aura une convoitise, une domination. Et nous voyons que la génération suivante, il y a non seulement une convoitise et une domination, mais que leur enfant Caïn et Abel, Caïn par jalousie, va tuer Abel. Donc la mort est rentrée et Caïn n'a pas pu maîtriser ses passions. Et c'est le drame de l'humanité. Paul est victime aussi de ce drame quand il dit « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, je fais le mal que je ne voudrais pas faire. » C'est l'histoire de toute l'humanité. Nous sommes, quelque part, nous avons, il y a une blessure dans notre fabrication, il y a une brèche. C'est le péché des origines qui n'est pas notre propre péché, mais notre marque à tous. Voyez, nous avons été blessés dans notre harmonie. Et cette harmonie, en nous-mêmes, que Dieu voudra restaurer, y compris son image et sa relation avec sa créature, elle entraîne une disharmonie dans nos relations. Combien l'individualisme commença avec Caïn et Abel, puisque Caïn voulut tuer Abel. Comment la tour de Babel montre cette incapacité à communiquer. La jalousie dans l'Ancien Testament, l'adultère, le meurtre, mais ça continue dans le Nouveau Testament et dans toute l'histoire. En fait, l'homme a du mal à véritablement être en harmonie, dans l'union telle que Dieu l'avait voulu avec les autres. Et un jour, un philosophe, si je me souviens bien, c'est Machiavel, dira « L'homme est un loup pour l'homme ». Mais ce n'est pas fondamentalement ça. L'homme est un loup pour l'homme à la suite du péché. Pas tel que Dieu l'a voulu, parce qu'il est blessé, parce qu'il est cassé. Donc nous voyons que Dieu, à partir de là, va tout faire pour restaurer sa créature. Pour restaurer sa créature. L'œuvre de sa création a été abîmée et ça a même des conséquences sur l'harmonie cosmique. Les perturbations cosmiques, pour une part, nous enseignent l'Église et l'Écriture, sont dues au péché des origines. Soit directement, soit indirectement, par notre propre participation. Dixit les problèmes de guerre, de destruction massive, d'écologie, qui viennent de cette incapacité à savoir le droit, la maîtrise des passions, le lien avec les autres, qui entraîne la destruction du système, du cosmos. Mais spirituellement même, dans un tout, les péchés des origines a entraîné cette destruction, cette déstabilisation. Donc Dieu voudra restaurer sa création, et comment fera-t-il ? Il va se révéler, il va montrer son vrai visage à sa créature, ou il va le faire progressivement, de manière à ce qu'elle le connaisse, et en le connaissant, qu'elle s'unisse à lui, et en s'unissant, qu'elle ait la grâce pour pouvoir revivre dans une intimité, pour pouvoir être restauré dans son équilibre spirituel, intellectuel, affectif, passionnel, physique, et pour pouvoir être en harmonie les uns avec les autres. Mais Dieu, nous le verrons, ne s'arrête pas là, il va augmenter son projet. Nous parlerons de la rédemption, qui est une augmentation qui va plus loin même que la création. Dans le projet de dévoilement du Seigneur, dans le plan du salut, Dieu va se révéler à Abraham comme le Dieu unique, transcendant, au-delà de toute création, de toute créature. En cela, il purifie les croyants de cette époque de l'idolâtrie pour remontrer le vrai visage de Dieu, le tout autre. Le tout autre. Ce qui deviendra le credo d'Israël, écoute Israël, le Seigneur est l'unique. Ce qui me semble aussi important de dire avant, c'est que Dieu, dès le début, a ce projet de sauver l'homme dans le plan du salut. Si Dieu dit maintenant à Adam, tu gagneras le fruit de ton travail, de la terre à la sueur de ton front, et toi, Ève, la mère des vivants, ben, tu enfanteras dans la douleur, donc il y a une pénibilité, la souffrance entre, vous voyez, la souffrance entre comme conséquence aussi du péché, et de manière ultime, la mort. Dieu dit à Ève qu'elle écrasera du talon le serpent. Et les pères de l'Église ont vu en cela les prémices de l'Évangile, ils ont appelé ça le proto-Évangile. C'est-à-dire, en cela, nous verrons qu'il y a comme le début de l'annonce du salut. Dieu va mettre en œuvre quelque chose pour que, effectivement, la femme écrase le serpent. Et de fait, un jour cela se fera, puisque Marie, l'Ève nouvelle, va écraser le démon. Donc Dieu remplira sa promesse en son temps. Il commencera avec Abraham, où il va se révéler, et la foi va devenir écoute. Cette foi-là va éduquer le peuple, les premiers croyants, à vivre. Et donc nous voyons que le plan du salut pour reformer l'homme à l'amitié divine va consister à écouter Dieu, à suivre ce qu'il enseigne. C'est ce que nous appellerons l'alliance à travers les commandements reçus par Moïse, à travers les oracles des prophètes, à travers le culte qui se mettra en place. L'alliance va se poser et l'homme va rentrer peu à peu dans une amitié avec Dieu. Je dis une amitié et non pas encore une intimité pleine. Mais toujours la faiblesse humaine, et ça tentera le peuple hébreu par exemple lors de la sortie d'Égypte, où effectivement la tentation d'avoir un veau d'or est grande, de la fausse conception de Dieu reviendra, parce qu'ils sont toujours marqués par le péché des origines. Et donc, se tromper sur Dieu peut arriver si on n'entend pas la parole qui libère. La foi va purifier la conception de Dieu, et nous voyons que dans toute la Bible, il y a comme un cheminement de la conception de Dieu. Si il semblerait que pour les premiers croyants, il fasse dire qu'un péché, qu'une personne qui soit aveugle, boiteux, elle soit coupable de péché ou de ses ancêtres, cette conception va peu à peu se purifier. On appelle ça la morale de rétribution. Si tu es comme ça, c'est parce que tu as fauté ou avant toi on a fauté. Donc on voit que la conception de Dieu n'est pas encore claire. Elle va se purifier dans le temps. De la même manière, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est donné dès le départ, l'homme aura du mal à le recevoir. Il faudra du temps pour comprendre que Dieu aime d'un amour jaloux. Au départ, l'homme comprendra qu'il faut suivre Dieu pour vivre, choisit la vie. Sinon, c'est la mort. Psaume 1. Et progressivement, les croyants vont comprendre, Israël va comprendre que c'est un amour, c'est de l'amour qu'il s'agit. Et le livre d'Osée, vers la fin de la révélation de l'Ancien Testament, montre que Dieu aime d'un amour jaloux. Et quand on ne le suit pas, c'est comme si on est adultère. On n'est plus là simplement dans des préceptes. On est dans une relation d'amitié profonde. Donc il y a une évolution, y compris sur la manière dont Dieu va sauver. Progressivement apparaîtront des notions comme le Messie, en particulier dans le livre d'Isaïe, où Isaïe va prophétiser le Messie. Voici que la Vierge va enfanter un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. De même, le prophète Isaïe parlera d'un germe juste, de quelqu'un qui descend de cette lignée, mais qui restait juste, bon, vrai devant Dieu saint, et qui sera la gloire d'Israël, et qui sera le restaurateur du peuple, le libérateur. En cela, on voit que Dieu prépare à travers les prophètes quelqu'un, un Messie, qui va aider à une plus grande intimité, à une plus grande union. De la même manière, dans les Actes des Apôtres, nous est donnée une autre promesse. On parle moins souvent que la promesse messianique, et pourtant elle est importante, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 4, ou encore en Luc 24, 49, la promesse du Père, quelle est-elle? C'est l'Esprit Saint, ce que Ézéchiel appellera que Dieu gravera, fera de nos cœurs de chair, de pierre, des cœurs de chair. Il inscrira sa loi dans nos cœurs. Dieu va donner un jour son intimité divine, il donnera le don du Saint-Esprit. Voyez, c'était déjà préparé. Alors Israël va découvrir que Dieu est l'unique, qu'il faut combattre l'idolâtrie qui peut ramener l'homme à l'esclavage. Israël va attendre un Messie, et un jour ce Messie va venir. Et en cela, nous rentrons dans la rédemption. Déjà, la promesse de rédemption commence avec le proto-évangile, la femme t'écrasera le pied, mais vraiment l'incarnation de Jésus-Christ va être le démarrage de la rédemption. Oui, parce que c'est véritablement celui qui vient de la Trinité qui va enseigner maintenant qu'est vraiment la Trinité. Vous avez cela dans le chapitre de Saint Jean, premier chapitre, verset 18, où l'évangéliste dira « Dieu, personne ne l'a jamais vu. Celui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. » Ça veut dire qu'avant, même s'il y avait déjà une alliance, même s'il y avait déjà un chemin d'amitié, le cœur de Dieu n'était pas complètement connu. Son intimité, le fait qu'il soit Trinité, n'était pas connu. Et dans l'incarnation de Jésus, dans sa manière de vivre, va se révéler la deuxième personne de la Trinité, après que Dieu soit Père, qui est révélé dans l'Ancien Testament, va être révélé de manière particulière le fait que Dieu soit Fils. Ça va être source de scandale pour beaucoup. Les Juifs ne vont pas comprendre que cet homme, Jésus, se prenne pour Dieu et puisse pardonner. Et pourtant, Dieu se révèle comme Fils. Dieu commence à montrer son intimité. Il dira les paroles que Dieu lui-même a dit à Moïse. « Je suis celui qui est. » Jésus reprendra ses paroles. « Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis. » C'est-à-dire, « Je suis la pleine divinité. » Donc on a dans l'Évangile cette révélation de la deuxième personne de la Trinité. Vous voyez, ce processus continu du plan du salut. Si la Trinité existe depuis toujours et pour toujours, elle se révèle progressivement à l'homme. Et bien, ça continue encore. Jésus-Christ, en parlant avec ses apôtres à qui il donne le cœur de son message, va révéler en Jean 16, à d'autres endroits, et de manière très explicite, dans le commandement de l'annonce à la fin, en Matthieu 28, « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », va révéler la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, qui est d'une égale dignité que le Père et le Fils, puisque c'est au nom, l'unique nom de Dieu, le seul Saint du Père, Fils et Saint-Esprit. Donc là, on voit qu'à la fin de l'Évangile est révélée toute la Trinité. Et tous les actes des apôtres, les lettres des premiers apôtres, jusqu'à l'Apocalypse, va être le déploiement de l'action des croyants qui ont reçu la révélation de la Trinité. Donc tout le mystère du plan du salut, c'est de révéler aussi le vrai Dieu. Mais Jésus ne se limite pas simplement de révéler le vrai Dieu. Il est, comme le dit saint Paul en 1 Corinthiens 15, vous pourrez voir versets 21 et 22, il est le nouvel Adam. Il est le nouvel Adam. Qu'est-ce que ça veut dire? Paul dira que le péché est rentré par un homme. Aussi, il faut que la vie entre par un autre homme. Si Adam a commis le premier péché, et par son péché, la mort est rentrée dans le monde, le Christ ressuscité rapporte la vie. En cela, le Christ est le nouvel Adam, dit saint Paul. Et c'est très fort cela, parce que ça veut dire que la vie de Jésus-Christ, dès son enfance, dès le fait qu'il soit dans le ventre de Marie, jusqu'à sa mort, c'est la vie d'un homme telle qu'elle est réellement. En fait, il n'y a pas de critique à faire, ce n'est pas méprisant ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même, ça n'enlève pas la dignité de l'homme. Mais un homme qui ne connaît pas encore Jésus-Christ ne vit pas pleinement son humanité. Parce que la vraie humanité, c'est Jésus-Christ. Et pour être non pas des sous-hommes, mais être pleinement homme dans toute notre potentialité, il faut vivre de la vraie humanité de Jésus. C'est pour cela que Jésus, à chaque moment de sa vie, c'est ce qu'on appelle les mystères de la vie de Jésus, compris dans le chapelet, va sanctifier, montrer ce qu'est un vrai homme. Un homme selon le plan de Dieu, que Dieu l'a voulu dans la création depuis le départ. Il est le nouvel Adam. Et donc, il est vraiment vrai homme, tel qu'on doit l'être à la naissance, à l'enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte. Il est tel qu'on doit l'être, même en supportant la souffrance, puisque Dieu, dans son, on verra, la rédemption est une entreprise de recréation, n'a pas enlevé la souffrance, jusque dans la mort. Pourquoi? Parce que Jésus, à tout moment, il est Fils. Jésus est le Fils par excellence, et à tout moment, il est Fils. Et vous voyez, si le péché est entré dans le monde par la désobéissance d'Adam et Ève, la victoire sur la mort, le nouvel Adam vient en étant obéissant. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit « Voici Père que je viens pour faire ta volonté ». Et Philippiens, Paul, qui s'admire, qui voit ce mystère-là de l'incarnation du Fils de Dieu, dira « Le Christ Jésus ayant la condition de Dieu ne retint pas jalousement le rang qu'il est qualifié à Dieu, mais il devenu semblable à un homme, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la croix, à la mort, et la mort sur la croix, obéissant. » Donc le Christ a obéi chaque moment d'obéissance, a réparé chaque désobéissance de toute l'humanité, depuis le début. En cela, il est le vrai homme. Il est le modèle à suivre. Si nous voulons voulons véritablement vivre comme Dieu le veut depuis la création, c'est le modèle par excellence. Mais Marie est aussi le modèle d'Ève par excellence, parce que Marie sera la mère des vivants, la mère de la grâce. C'est elle dont parle l'Apocalypse, qui sera couronnée d'étoiles. La femme qui luttera contre le dragon, qui est un parallèle à faire avec justement ce qui était dans le proto-évangile, Ève qui était piquée au talon par le serpent et qui écrasait de son talon la tête du serpent. Et bien voilà ce que dit saint Irénée, un père de l'Église qui a beaucoup médité là-dessus. C'est lui qui dira un jour: Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Voilà ce qu'il écrit. Parallèlement au Seigneur, on trouve aussi la Vierge Marie obéissante. Lorsqu'elle dit: voici ta servante, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ève, au contraire, avait été désobéissante. Elle avait désobéi alors qu'elle était encore vierge. Car de même qu'Ève, ayant encore écho Adam, et cependant encore vierge, car ils étaient nus tous les deux dans le paradis, et n'en avaient pas honte, parce que créés eux auparavant, ils n'avaient pas de notion. Il leur fallait d'abord grandir, et seulement ensuite se multiplier. Ève, en désobéissant, devint cause de mort pour elle-même et pour tout le genre humain. De même, Marie, ayant pour époux celui qui l'avait été destiné par avance et cependant vierge, devint en obéissant cause de salut pour elle-même et pour tout le genre humain. Voilà. Dans les Éphésiens, nous avons lu au départ de cet enseignement, il nous a destinés à être saints et immaculés. Marie est l'Immaculée. Nous serons un jour quand même immaculés. C'est ça le but du plan de Dieu, c'est qu'effectivement nous devenions comme le nouvel Adam et la nouvelle Ève. Parfaitement, une maîtrise parfaite de notre spirituel sur l'intellectuel, sur nos passions. Une connaissance de Dieu vraie, sans peur, sans fausse image, et une vraie harmonie du Dieu en amour entre nous. C'est ce que vit Marie, qui a vécu dès ici-bas, c'est ce que vit le Christ, le nouvel Adam. Et le Christ va utiliser un moyen pour racheter l'homme qui est étonnant. Si la mort et la souffrance est venue dans le monde par le péché, Dieu va faire de la boue, qui est le mal, de l'or. Il va se servir de la souffrance, non pas en sadique, mais pour surélever l'homme. Comment fait-il cela? Parce qu'il appelle ça, on appelle ça la croix. Le chemin de croix, celui qui me suit, qui prenne sa croix et qui me suit. Quel est le sens de cela dans le processus de transformation? La croix nous donne à aimer quelque chose que nos passions n'aiment pas naturellement. La croix nous demande d'avancer dans l'obéissance de la foi, et même dans la nuit, au-delà de notre vision. La croix, c'est la purification de l'amour, c'est plus grand. En cela, ça élève l'homme, ça lui permet de retrouver sa dignité, de se donner au-delà de l'égoïsme, au-delà de l'autocentrisme. Et Dieu va s'en servir en montrant le propre exemple pour lui-même, et en disant: celui qui suivra, qui veut me suivre, qui prenne sa croix et qui me suive. Et nous voyons qu'en fait, le chemin de croix est profondément digne, parce que c'est un chemin de restauration humaine. C'est un chemin où l'homme replace le spirituel, même si l'intellectuel est désordonné, et qu'il combat dans le chemin de croix la passion, ses propres passions, pour pouvoir donner le meilleur de lui-même, qui est l'amour, et redevenir un être relationnel, parce qu'il est évident qu'une croix bien comprise, on ne la fait pas pour nous, on ne la porte pas pour nous. Voyez comme Dieu va se servir de la boue pour faire de l'or. Pour faire de l'or. Et c'est pour cela que le Christ dira, et on peut faire cette belle image, qui est une métaphore mais qui est belle, quand le Christ dira: je suis la porte, en Jean 10. Celui qui entre pourra venir, aller et venir. Je suis venu pour que les hommes aient la vie, et la vie en abondance, Jean 10, 10. Il est le bon pasteur, dira-t-il encore en Jean 10, faisant écho au psaume 23, qui nous mène sur les prés d'herbes fraîches. Mais qui sont-ils, ces prés d'herbes fraîches? C'est le nouvel jardin d'Éden. C'est le lieu de l'intimité avec Dieu qui est restauré, celles qui ont été clos et fermées depuis le péché par Adam et Ève. Où elle est cette porte qui permet de rentrer dans l'intimité de Dieu? C'est le Christ. Où est cette porte vraiment du Christ? C'est la croix. Nous voyons que la porte pour rentrer dans l'intimité de Dieu, c'est le chemin que le Christ va prendre toute sa vie, obéissant, prenant la condition humaine, obéissant jusqu'au bout et sur la mort de la croix. Donc l'obéissance va tout restaurer. Et le Christ va pousser à bout le processus de connaissance de Dieu, va le pousser à bout. Si la foi va se développer dans l'Ancien Testament, la foi est écoute dans l'Ancien Testament. Elle est avancée dans la nuit. Avec le Christ, elle prend une autre amplitude. Saint Jean dira ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché. Et de fait, nous verrons dans la foi. Nous voyons dans la foi et nous touchons le Christ dans la foi. Donc, l'intimité de Dieu s'est rapprochée. Mais elle n'en reste pas là. Je vous ai dit que Dieu veut révéler la Trinité, mais qu'il veut nous faire rentrer en lui. Le Christ ira plus loin, il dira « Qui mange ma chair et mon sang, demeure en moi. Demeurez en moi comme moi en vous. » Que dit-il? La Trinité veut rentrer dans l'homme. Elle ne se contente pas de se révéler, elle veut maintenant rentrer dans l'homme. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai et nous viendrons manger chez lui et faire notre demeure. Donc on voit que la révélation, la progressivité de la foi, ce n'est pas simplement d'écouter, mais de voir, de toucher et de nous mettre en mouvement, de suivre pour demeurer et nous unir. Donc la rédemption, c'est cela, c'est nous véritablement nous restaurer dans ce que nous sommes. Et Dieu ne le fait pas sans nous. Si Dieu nous a créés sans nous, Dieu ne fait pas la rédemption sans nous, ne nous restaure pas sans nous. Saint Augustin dira un jour, si Dieu t'a créé sans toi, Dieu ne te sauvera pas sans toi. Et c'est vrai. Parce que ce qui avait été le propre de la liberté de choisir ou pas d'obéir à Dieu est aujourd'hui le même drame, c'est la liberté de choisir ou pas de suivre le Christ, d'être restauré dans sa pleine humanité. L'enjeu est très grand. L'enjeu est simplement de rater sa vie, totalement, de ne pas être pleinement humain. Plus que ça, même pour conséquence, de ne pas avoir accès à la vie éternelle, parce que la conséquence du péché endurcit le cœur. Et nous savons que notre destinée, c'est la Trinité. Or, un petit nom engendre un petit nom, qui engendre un petit nom, qui durcit le cœur. Et le jour du face-à-face, le oui est beaucoup plus dur. Or, un petit oui engendre un petit oui qui facilite un grand oui. C'est comme un cours de piano. Vous faites des gammes, vous arrivez à jouer un morceau. Vous ne faites jamais de gammes, c'est beaucoup plus dur d'improviser. Dans l'être humain, ses capacités sont la même chose. L'habitude à suivre permet de donner un jour tout. L'habitude à prendre de la distance permet un jour l'ignorance. Et donc, il y a un vrai enjeu pour le Christ de salut quand il dit... Dieu a tant aimé le monde en Jean 3,16 qu'il a donné son Fils non pas pour juger le monde mais pour le sauver, Jean 3,17, et pour qu'il ait la vie éternelle. C'est pas une figure de style, c'est effectivement Dieu a conscience que s'il n'intervient pas, que s'il ne propose pas la vraie connaissance, qu'il ne touche pas sa créature et qu'il s'unit à elle, sa créature, laissant à ses propres facultés limitées, désordonnées, désorientées, court à sa perte et à sa perte finale. Ne craignez pas ce qui tue le corps, craignez ce qui tue le corps et l'âme. Donc il y a un vrai enjeu de salut. Il y a un vrai enjeu de salut total, intégral, définitif. Et c'est pour cela que le Christ est venu. Le Christ révèle parfaitement le Père. Le Christ révèle parfaitement le Saint-Esprit. Je vous ai dit qu'il veut demeurer. Dieu veut demeurer en nous. Et c'est la troisième partie du plan du salut. C'est la sanctification. Dieu ne se contente pas de racheter et de rétablir sa créature, il veut l'unir définitivement en lui, la diviniser. Souvenez-vous de ce qu'on a dit, saint Irénée, Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. En cela, le don du Saint-Esprit permet non seulement d'utiliser de manière harmonieuse les qualités humaines, mais elle permet aussi de les surélever, Parfois, elle reste au niveau naturel, parfois elle les dépasse. C'est ce que nous pensons des charismes, c'est ce que nous pensons de dons surnaturels qui ne sont pas un acquis, mais qui sont donnés proprement par Dieu. Dieu élève sa créature. Et cette élévation va continuer à se faire jusqu'au bout. Et vous voyez, c'est tellement vrai qu'à un moment donné, les créatures qui sont prises dans le Saint-Esprit, qui sont glorifiées, que se passe-t-il? Ces créatures-là n'ont plus peur de la mort de la même manière. Elles ne disent pas « je vais mourir, je pars à ma perte ». Elles disent comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, « je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Parce que tout le processus de sanctification, de divinisation s'est fait, et en fait, leur volonté s'est unie à la volonté de Dieu. Parfaitement, elles sont unies à la Trinité. Et en cela, non seulement elles ont accueilli le plan du salut pour elles, mais on va voir, elles collaborent au plan du salut pour les autres. Elles sont actives. Cette transformation qui se fait en nous, qui nous permet de nous restaurer par la grâce, pour suivre le Christ et déployer notre pleine humanité, telle que Dieu le veut depuis la création, mais plus encore de nous diviniser, prend sa source dans le baptême. Dans le baptême, on renaît à la vie divine, ok, mais on n'a pas simplement acquis toute la vie divine. La vie divine, après, il faut la déployer, il faut qu'elle irradie, il faut qu'elle brûle tout ce qui est du vieil homme. Il y a un phénomène de naissance qui va continuer, d'engendrement qui continue toute la vie de l'homme. Et s'il faut, même après sa mort au purgatoire, un phénomène d'engendrement. Nous voyons en cela, encore une fois, que la Vierge Marie, dans son Assomption, a pleinement réussi ce processus, puisqu'elle rentre sans tâche, en corps et âme, au ciel. Elle est pleinement entrée dans la gloire de la Trinité, elle est pleinement divinisée. Non pas qu'elle, n'oublions pas Marie, en mode idolâtre, ce n'est pas Dieu, mais Dieu la fait rentrer dans sa gloire, parfaitement. Et elle voit la Trinité. C'est ce que dit encore, vous pourrez retenir ce verset, dans la deuxième épître de saint Pierre, au chapitre 1, verset 4. Pierre dira qu'il nous a fait participants de la nature divine. Participants de la nature divine. Nous participerons à la vie de Dieu. Vous voyez ? Donc c'est en cela que Thomas d'Aquin disait que la rédemption et le don du Saint-Esprit, le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit, c'est un don plus grand que la création. Parce que Dieu ne s'est contente pas de créer. Là, il restaure, il va plus loin, il divinise. C'est extraordinaire. Et ça, c'est le plan pour tout homme. Et donc, je voudrais terminer en voyant tout le credo que nous allons voir cette année. Ça dit cela. Ça part de la Trinité, ça va à la Trinité. Tout le credo, ça part de la Trinité, ça va à la Trinité. Tout le Notre Père, ça part de la Trinité. Ça implique ce phénomène de croissance, de transformation avec la vie du Christ, et ça va au ciel, ça va à la Trinité. Toute la théologie de l'Église que vous pourrez voir dans le Concile Vatican II, dans la Constitution Lumen Gentium, ça vient de Dieu, de la Trinité, le peuple de Dieu, Père, le corps du Christ, et le temple de l'Esprit Saint, ça part de Dieu, et ça va à Dieu. Donc on voit, on vient de Dieu, et on retourne à Dieu. Qu'est-ce que ça a à voir avec ma vie, le plan du salut? Tout d'abord, que la Bible, c'est pas simplement le plan du salut, mais ça raconte notre vie. La Bible raconte nos errances personnelles et le phénomène de transformation et de divinisation et d'accueil du pardon de Dieu pour nous. Chaque moment de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, nous pouvons le faire nôtre et nous pouvons y trouver quelque chose qui raconte notre vie, où nous allons être transformés. Ou alors nous sommes égarés. Ce qui est dit dans la Genèse est valable pour nous. Ce qui est dit des prophètes est valable pour nous. Ce qui est dit à l'Apocalypse est valable pour nous. Nous ne devons jamais désespérer parce que Dieu a un plan du salut pour nous, y compris pour le pauvre, le SDF dans la rue. Sachez que Dieu a un plan du salut. Il mettra tout en œuvre pour le sanctifier, le diviniser. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Alors je termine en disant, vous voyez, si nous collaborons à ce plan de Dieu pour nous, nous sommes non seulement récepteurs, mais nous devenons collaborateurs. Je vais prendre un exemple concret de saint et d'une personne connue. Thérèse d'Avila disait « Je veux voir Dieu » au départ de sa vie. Elle a suivi l'humanité du Christ, le chemin de la rédemption. À la fin de sa vie, qu'est-ce qu'elle dira au moment de mourir ? Je suis fille de l'Église. Elle est devenue un membre actif du plan du salut pour les autres. En faisant des choses concrètes, elle est devenue universelle. Et vous voyez cela dans la vie des grands saints, ou même des grandes personnes qui certainement sont des amis de Dieu. Je pense à Jean Vanier. Il a connu les personnes handicapées. Et j'allais dire, sa connaissance est limitée humainement. Vous n'avez jamais remarqué à tel point son discours était universel. Parce que l'union à Dieu dans le particulier nous divinise et nous rend universels. C'est ce que Dieu veut pour nous. Alors, bon plan du salut à chacun et bonne année.